Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Bonjour et bien, bonjour Nathalie.
Bonjour Jacques.
Alors ce mois-ci, vous nous avez concocté, toi, vous nous avez dit oh, « Attention, quand les citadins vont à la campagne, des fois ils commettent des erreurs, ne serait-ce que même quand ils amènent leur vapotage, et enfin, quand ils se couchent et qu'ils ronflent. » Alors j'ai fait un raccourci un petit peu. Allez, détendez-nous et dites-nous un petit peu, oui, les marrons, les châtaignes, c'est pas pareil?
En fait, on se demande pourquoi dans les villes, on fait que planter des randonnions de marronniers, parce que du coup, les citadins savent pas bien ce que c'est qu'une châtaigne, et comme on appelle les châtaignes les marrons, ils finissent par, notamment la crème de marron, hein, et il y en a toujours, tous les ans, qui s'intoxiquent au marron à la place des châtaignes. Alors, c'est quand même pas anodin, puisque l'Agence nationale de sécurité des médicaments a lancé une alerte en disant quand même que c'était la deuxième, erreur commise avec les plantes. Et pour quelqu'un qui connaît les châtaignes et les marrons, ça paraît assez incroyable de les mélanger, parce que quand même, une châtaigne, si on veut la ramasser, ben, on va se piquer les doigts, parce que quand même, c'est dans une coque avec beaucoup de piquant. Et puis, dedans, à l'intérieur, on voit bien les trois petites châtaignes assez plates, deux, trois petites châtaignes un peu aplaties, triangulaires, qui ont une forme spécifique, alors qu'un marron que vous ramassez, déjà, son enveloppe, c'est des tout petits picots, mais on ne se fait pas trop mal. Elle est verte aussi, et quand vous l'ouvrez, il n'y a qu'un seul gros marron. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui font des confitures de marrons ou qui mettent des marrons à la poêle pour les manger. Et alors, effectivement, outre le goût qui ne doit pas être terrible, ben, ils encourent surtout des gros troubles digestifs, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et même des irritations de la gorge. Donc, ça fait beaucoup rire, évidemment, les gens des campagnes qui ne comprennent pas comment on peut confondre marrons et châtaignes. Et j'avais vu dans les commentaires de cette actualité quelqu'un qui avait une très bonne idée en disant « Mais pourquoi on ne plante pas des rangées de châtaignes en ville ?» Comme ça, le problème sera résolu.
La seule utilisation du marron qui soit permise, comme disait Madame de Sévigné, c'est de mettre un marron dans sa poche, attendre qu'il sèche et soi-disant que c'est bon pour lutter contre l'arthrose. Maintenant, je laisse Madame de Sévigné responsable de ces affirmations. Alors, oui, le marron, c'est fait. Le vapotage, c'est pas bon non plus?
C'est qu'on s'est beaucoup intéressé aux effets du vapotage sur les poumons, ce qui est tout à fait normal. Il y a d'autres gens, des études récentes, des chercheurs qui se sont demandé si ça pouvait faire jaunir les dents, comme le tabac. Alors, dans la cigarette, on sait que c'est les goudrons hein, qui sont présents à l'intérieur, qui sont responsables principalement du jaunissement des dents. Il n'y en a pas de goudrons dans les e-cigarettes. On aurait tendance à dire, ben non, il n'y a pas de risque. Oui, mais à la place, il y a des substances parfumées. Et il y a certains liquides qui sont très colorés. Du coup, ben, les chercheurs qui ont fait les études se sont aperçus que plus les liquides étaient colorés et plus à terme, il y avait un petit risque de jaunissement des dents qu'on ne peut pas comparer avec celui engendré par la cigarette classique, mais qu'on peut comparer, ben, par exemple, aux grands buveurs de thé et de café qui ont un peu les dents plus jaunes, quoi. Voilà. Ils se sont aussi demandé s'il y avait plus de caries, tant qu'à faire. Et donc, ben, la réponse est oui, parce qu'il y a des risques de caries, tout simplement, parce que certains liquides parfumés sont aussi sucrés, et surtout, ils contiennent des composants visqueux, donc dans les liquides, et ça va favoriser l'adhésion des bactéries cariogènes à l'émail. Alors là, la petite astuce, elle est très simple, hein, pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de vapoter, ben, faites comme si vous aviez bu une boisson sucrée juste avant, vous rincez en buvant un verre d'eau, ou mieux, si vous pouvez, vous lavez les dents, et comme ça, le problème est réglé.
On arrête de vapoter, c'est plus simple. Alors maintenant...
Oui, si on ne fume pas, si on ne vapote pas, on n'a pas de problème.
C'est mieux. Mais oui, mais des fois, on ne peut pas s'empêcher de ronfler aussi.
Ah, est-ce que toi, tu ronfles?
Non, je ronfle pas, mais bon, pas beaucoup. Mais qui c'est qui ronfle? C'est le conjoint qui, en général, prévient qu'il y a un ronfleur à côté de lui.
Voilà. Alors, il y a quand même beaucoup de ronfleurs. Ce sont des, on va dire, des petits joueurs, quoi. Ils vont rester dans un registre de 45 à 60 décibels. Ma foi, c'est supportable, ça, pour que tu te sois endormi avant. Le problème, c'est qu'il y a certains ronfleurs qui dépassent allègrement les 85 décibels. Ils peuvent même atteindre 100 décibels. C'est comme s'il y avait dans la chambre le ronronnement d'un moteur de poids lourd.
Oui, ou le décollage d'un avion, je crois qu'on avait dit aussi.
Voilà. C'est pas terrible pour le sommeil, on s'en doute, mais c'est pas terrible pour l'audition non plus. Pourquoi? Alors, les effets du bruit n'ont pas très bien été étudiés chez les conjoints ronfleurs. renforts. Ils ont surtout été étudiés au travail, mais c'est une question d'heures, de nombre de temps passé au-dessus de 80 décibels. Et au travail, ça a été parfaitement démontré que l'ouïe était en danger à partir du moment où on restait, où on était confronté à un bruit supérieur à 80 décibels pendant 8 heures. Mais ça peut être un temps plus court si c'est plus que 80 décibels.
Donc autrement dit, si son conjoint ronfle, au bout d'une demi-heure ou d'une heure, on le réveille, quoi.
Eh bien voilà, une nuit ordinaire, c'est l'équivalent d'un travail. Et pour peu qu'il y ait un gros ronflement comme celui d'un moteur de poids lourd, c'est pas terrible, c'est mauvais pour l'audition. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Les conjoints de ronfleurs, ils se plaignent, ils ont du mal à s'endormir, ils se réveillent souvent, ils ont une dette de sommeil, ils sont fatigués. On sait que le bruit chronique, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, d'hypertension artérielle, c'est un facteur de stress, d'irritabilité, d'anxiété, voire d'agressivité. Et pourquoi j'en arrive là? En fait, il y avait eu une petite enquête faite par un vendeur de matelas hors Union européenne, mais c'est assez marrant, qui demandait aux conjoints qu'est-ce qui se passait, comment affectait, si le ronflement pouvait affecter leur vie à deux. Et il y en avait qui, la plupart faisaient chambre à part, et il y en avait qui allaient jusqu'à divorcer, et c'était le motif du divorce. Donc c'est quand même pas à prendre à la légère.
Rappelons...
C'est d'autant plus pas à prendre à la légère qu'il y a certains ronflements qui peuvent être révélateurs de maladies. On pense au syndrome d'apnée du sommeil, et là, c'est aussi...
Et voilà, et en cas d'apnée du sommeil, il suffit quelquefois d'avoir un masque avec un appareil respiratoire, et ça supprime à ce moment-là les apnées, les ronflements.
En attendant, le conjoint, lui, peut quand même investir dans des bouchons d'oreilles. Hein. On peut même se faire faire des bouchons sur mesure qui sont très efficaces. Il y a des casques anti-bruit, mais par contre, il faut arriver à dormir sur le dos et pas sur le côté. Enfin voilà, il y a les chambres à part, chacun peut trouver... Après tout, est-ce au conjoint de partir et de faire chambre à part, ou est-ce au ronfleur de dégager de la chambre?
Eh bien, on va laisser les auditeurs choisir la réponse. Et on va vous remercier, Nathalie, pour cette intervention. Et au mois prochain. Au revoir, Nathalie.